Guerre et paix. Première partie, chapitre 3, scène 16. Kutuzov, accompagné de ses aides de camp, suivit au pas les carabiniers. À une demi-verste de distance, il s'arrêta près d'une maison isolée, une auberge abandonnée sans doute, située à l'embranchement de deux routes qui descendaient toutes deux dans la montagne et qui étaient toutes deux couvertes de nos troupes. Le brouillard se dissipait et on commençait à distinguer les masses confuses de l'armée ennemie sur les hauteurs d'en face. On entendait un feu très vif à gauche, dans le vallon. Kutuzov causait avec le général autrichien. Le prince André pria ce dernier de lui passer la longue vue.
Voyez, voyez,
disait l'étranger.
Voilà les Français.
Et il indiqua, non un point éloigné, mais le pied de la montagne qu'ils avaient devant eux. Les deux généraux et les aides de camp se passèrent fiévreusement la longue vue. Une terreur involontaire se peignit sur leurs traits. Les Français, qu'on croyait à deux verstes, s'étaient dressés inopinément devant eux.
« C'est l'ennemi ! Mais non ! Mais certainement ! Comment est-ce possible ?»
dirent plusieurs voix. Et le prince André voyait à droite, monter à la rencontre du régiment d'Apcheron, une formidable colonne de Français, à 500 pas de l'endroit où il se tenait.
« Voilà l'heure,
se dit-il.
Il faut arrêter le régiment, votre haute excellence. »
À ce moment, une épaisse fumée couvrit tout le paysage. Une forte décharge de mousqueterie retentit à leur oreille, et une voix haletante de frayeur s'écria à deux pas.
« Fini, camarade, fini !»
Et, comme si un ordre émanait de cette voix, des masses énormes de soldats refoulés, se poussant, se bousculant, passèrent en fuyant au même endroit où, 5 minutes auparavant, ils avaient défilé devant les empereurs. Essayer d'arrêter cette foule était une folie, car elle entraînait tout sur son passage. Bolkonski résistait avec peine au torrent et ne comprenait que vaguement ce qui venait d'arriver. Nesvitsky, rouge et hors de lui, criait à Kutuzov qu'il allait être fait prisonnier s'il ne se portait pas en arrière. Kutuzov, immobile, tira son mouchoir et s'en couvrit la joue d'où le sang coulait. Le prince André se fraya un passage jusqu'à lui.
« Vous êtes blessé ?»
lui dit-il avec émotion.
« La plaie n'est pas là, mais ici, »
dit Kutuzov en pressant son mouchoir sur sa blessure et en désignant les fuyards.
« Arrêtez-les »
s'écria-t-il. Mais, comprenant aussitôt l'inutilité de cet appel, il piqua des deux et, prenant sur la droite, au milieu d'une nouvelle troupe de fuyards, il se vit entraîner avec elle en arrière. Leur masse était si serrée qu'il lui était impossible de s'en dégager. Dans cette confusion, les uns criaient, les autres se retournaient et tiraient en l'air. Kutuzov, parvenu enfin à sortir du courant, se dirigea avec sa suite, terriblement diminuée, vers l'endroit d'où partait la fusillade. Le prince André, faisant des efforts surhumains pour le rejoindre, aperçut sur la descente, à travers la fumée, une batterie russe, qui n'avait pas encore cessé son feu et vers laquelle se précipitaient des Français. Un peu au-dessus d'elle se tenait immobile l'infanterie russe. Un soldat s'en détacha et s'approcha de Kutuzov, dont la suite se réduisait à 4 personnes. Pâle et ému, ces 4 personnes se regardaient en silence.
« Arrêtez ces misérables !»
dit Kutuzov au chef du régiment. Et, comme pour le punir de ses mots, une volée de balles, semblable à une nichée d'oiseaux, passa en sifflant au-dessus du régiment et de sa tête. Les Français attaquaient la batterie, et, ayant aperçu Kutuzov, ils tiraient sur lui. À cette nouvelle décharge, le commandant du régiment porta vivement la main à sa jambe. Quelques soldats tombèrent, et le porte-drapeau laissa échapper le drapeau de ses mains. Vacillant un moment, il s'accrocha aux baïonnettes des soldats. Ceux-ci se mirent à tirer sans en avoir reçu l'ordre. Un soupir désespéré sortit de la poitrine de Kutuzov.
« Bolkonski !»
murmura-t-il d'une voix de vieillard affaibli, et en lui montrant le bataillon à demi détruit.
« Que veut donc dire cela ?»
À peine avait-il prononcé ces mots que le prince André, le gosier serré par des larmes de honte et de colère, s'était jeté au bas de son cheval et se précipitait vers le drapeau.
« Enfant, en avant !»
cria-t-il d'une voix perçante.
« Le moment est venu !»
se dit-il, en saisissant la hampe et en écoutant avec bonheur le sifflement des balles dirigées contre lui. Quelques soldats tombèrent encore.
« Hurrah ! »
s'écria-t-il, en soulevant avec peine le drapeau. Et, courant en avant, persuadé que tout le bataillon le suivait, il fit encore quelques pas. Un soldat, puis un second, puis tous s'élancèrent à sa suite en le dépassant. Un sous-officier s'empara du précieux fardeau, dont le poids faisait trembler le bras du prince André. Mais il fut tué au même moment. Le reprenant encore une fois, André continua sa course avec le bataillon. Il voyait devant lui nos artilleurs. Les uns se battaient, les autres abandonnaient leurs pièces et couraient à sa rencontre. Il voyait les fantassins français s'emparer de nos chevaux et tourner nos canons. Il en était à 20 pas, les balles pleuvaient et fauchaient tout autour de lui, mais ses yeux, rivés sur la batterie, ne s'en détachaient pas. Là, un artilleur roux, le shako enfoncé, et un Français se disputaient la possession d'un refouloir. L'expression égarée et haineuse de leur figure lui était parfaitement visible. On sentait qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient.
« Que font-ils ? »
se demanda le prince André.
« Pourquoi l'artilleur ne fuit-il pas puisqu'il n'a plus d'armes ? Et pourquoi le Français ne l'abat-il pas ? Il n'aura pas le temps de se sauver que le Français se souviendra qu'il a son fusil. »
En effet, un second Français arriva sur les combattants, et le sort de l'artilleur roux, qui venait d'arracher le refouloir des mains de son adversaire, allait se décider. Mais le prince André n'en vit pas la fin. Il reçut sur la tête un coup d'une violence extrême, qu'il crut lui avoir été appliqué par un de ses voisins. La douleur était moins sensible que désagréable dans ce moment où elle faisait une diversion à sa pensée.
« Mais que m'arrive-t-il ? Je ne me tiens plus, mes jambes se dérobent sous moi. »
Et il tomba sur le dos. Il rouvrit les yeux dans l'espoir d'apprendre le dénouement de la lutte des deux Français avec l'artilleur, et si les canons étaient sauvés ou emmenés. Mais il ne vit plus rien que bien haut, au-dessus de lui, un ciel immense, profond, où voguaient mollement de légers nuages grisâtres.
Quel calme, quelle paix,
se disait-il.
Ce n'était pas ainsi quand je courais, quand nous courions en criant. Ce n'était pas ainsi lorsque les deux figures effrayées se disputaient le refouloir. Ce n'était pas ainsi que les nuages flottaient dans ce ciel sans fin. Comment ne l'avais-je pas remarqué plus tôt, cette profondeur sans limite ? Comme je suis heureux de l'avoir enfin aperçu. Oui, tout est vide, tout est déception, excepté cela. Et Dieu soit loué pour ce repos, pour ce